48 FM sur Mende avec le 94.1. En direct du Salon du Vin à l'espace événement Georges Fraîche.
Apprécier la robe du vin, l'aspect visuel. Une deuxième étape où nous allons nous intéresser au nez du vin. Et finalement, nous allons goûter le vin.
Regarder, sentir, apprendre à déguster. Tous les secrets du vin vous seront dévoilés dans cette émission.
Et c'est parti, on est en direct de l'espace événement Georges Fraîche au rez-de-chaussée pour ce 9e Salon du Vin, 48 FM présent. Gros dispositif aujourd'hui avec Corentin qui est là à la technique, salut Corentin. Julia également qui est avec nous pour nous aider à aller chercher les viticulteurs présents pour ce salon, pour qu'ils viennent un peu s'exprimer, parler de leur vignoble, de leur vin, des difficultés auxquelles ils peuvent être confrontés et bien sûr du plaisir que procure ce métier. Eric qui est là avec moi pour animer cette émission, salut Eric.
Bonjour tout le monde.
Et Marie Molina, la présidente des Sarmentelles qui organise cette manifestation. Bonjour Marie.
Bonjour à tous.
Alors, on dit le vin, mais on pourrait dire la vin aujourd'hui, parce que ce matin, on a Marie qui est là, donc qui est présidente des Sarmentelles. On va recevoir d'ici à quelques instants la locale de l'étape, Elisabeth Boyer, qui va venir nous parler de son vin, de son Sauvignon qui est extra, qu'on goûtera bien sûr en direct dans cette émission. Irène Prioton aussi qui va venir, le Clos du Marbrier, dans quelques instants, qu'on ira chercher. Et bien sûr, d'autres viticulteurs, Guy Saleil qui va nous rejoindre dans quelques instants aussi. Et une émission qui va durer à peu près une heure. On vous invite bien sûr à venir à l'espace événement Georges Fraîche, le salon qui vient d'ouvrir ses portes il y a quelques instants, qui va durer toute la journée, hein, Marie, c'est ça ?
Ça va durer toute la journée et sur deux jours.
Et sur deux jours aussi. Marie, rappelle-nous, donc les Sarmentelles qui organisent cette manifestation, peut-être commencer par un petit historique de cette association, savoir comment elle a vu le jour, depuis quand elle existe.
Alors, cette association est venue tout au départ de l'idée de M. Bertrand, qui à l'époque était président de Sud de France. Donc, Guy Saleil également, qui est venu nous présenter une idée. Et donc, M. Bertrand, qui m'a chargé de m'occuper de ce salon. Et donc, depuis 9 ans, voilà, nous sommes partis tous ensemble. Et nous avons, depuis 9 ans, fait différents week-ends, une fois dehors, une fois dedans. On a un petit peu tout essayé et donc maintenant nous avons la chance d'être à l'espace événement et nous l'apprécions énormément.
Voilà, pour les visiteurs, c'est bien entendu gratuit, il faut venir.
C'est l'entrée est totalement gratuite. Nous vous proposons un verre de vin à l'entrée à 2 euros, mais il n'est absolument pas obligatoire de l'acheter. Voilà.
Les Sarmentelles qui se retrouvent aussi tout au long de l'année, il n'y a pas que le Salon du Vin.
Non, nous avons diverses activités. Tous les premiers vendredis de chaque mois, nous organisons une dégustation avec nos adhérents. Et donc, c'est Guy qui anime ces ateliers. Également, une fois par an, nous avons une visite chez les producteurs. En général, c'est un voyage de 3 jours. Et donc, ça nous permet d'aller directement auprès des viticulteurs, de mieux comprendre leur travail, d'apprécier et vraiment d'être au plus près d'eux. Et vraiment, on s'aperçoit que ce sont des gens qui sont passionnés et qui sont réellement passionnants.
Alors, on entrera plus en détail avec Guy tout à l'heure, mais on a cette chance maintenant de s'ouvrir à la région Midi-Pyrénées avec cette nouvelle grande région Occitanie. Donc, depuis plusieurs années, on présentait les vins du Languedoc-Roussillon. Et cette année, il y a des vins de Midi-Pyrénées.
Oui, cette année, nous avons la chance d'avoir 4 viticulteurs qui viennent de Cahors. Pour cela, Guy Saleil, depuis le début de l'année, a refait tout un règlement parce que vous savez qu'un concours ne se fait ça se fait pas comme ça, c'est très réglementé. Et donc, il a fallu faire un règlement qui a été validé. Et donc, cette année, nous aurons la chance d'avoir tous les vins du sud de France, mais également les vins du sud-ouest qui pourront participer à ce concours.
Et donc, il y a combien d'exposants ou de viticulteurs cette année ?
Cette année, nous avons 35 viticulteurs.
35 viticulteurs qu'on peut retrouver. On va pouvoir goûter leur vin, du rouge, du blanc, du rosé, un peu tout. Il y a également moyen de se restaurer à midi ce soir.
Alors, à midi, vous pouvez venir et vous pourrez vous restaurer. Je peux rentrer en détail dans, dans le repas. Oui, ben, à midi, donc, vous aurez des cuisses de canard confites avec des pommes de terre salardaise, une salade, du fromage et un dessert. Ce soir, par contre, à partir de 18h, seront servis des tapas à l'entrée. Vous aurez des tapas de viande, des tapas de poisson, des assiettes de charcuterie, mais également du fromage et des mignardises. Donc, tout ceci à l'entrée. Et vous pourrez prendre le vin directement chez le viticulteur. Voilà, avec une ambiance jazzy, puisque nous aurons également les Four Rêveurs qui seront là pour animer cette soirée.
Je crois qu'il y a plusieurs animations aussi dans la journée.
Alors, vous avez des ateliers donc, tout au long de la journée. Ce matin, en ce moment même, vous avez l'Hôtel de France qui est là et qui donc fait un atelier qui est ouvert et qui est totalement gratuit. Après-midi, vous aurez également les jumelages de Mande Windiddle et de Mande Villarreal qui vous feront également déguster, qui vous feront découvrir des spécialités de chaque ville jumelle. Et demain, nous mettrons à l'honneur les producteurs dont de saumon, de fromage et d'huîtres que nous avons la chance de pouvoir accueillir cette année. Et donc, tout ceci est gratuit. L'après-midi, vous aurez également des ateliers avec les vins que nous aurons primés au concours et que vous pourrez déguster. Voilà, je vous invite donc à venir très nombreux. Mais sachez que les places sont réduites, donc les premiers arrivés seront les premiers servis. Merci.
À titre personnel, la présidente des Sarmentelles, elle aime quoi comme vin ?
La présidente des Sarmentelles, elle aime tous les vins. Le vin blanc, le vin rosé et le vin rouge. Vous ne me demanderez pas quel vin précisément, je ne vous le dirai pas.
D'accord, merci beaucoup Marie Molina. Une première viticultrice qui est là, alors c'est Guy Salet qui m'a dit il faut à tout prix que tu ailles chercher Irène Prioton, le clos du Marbrier qui est là avec nous ce matin. Merci beaucoup.
Bonjour.
Alors, le clos du Marbrier, expliquez-nous votre domaine, il est situé où ?
Alors, je suis dans le Minervois, plus précisément à Cône-Minervois. Et j'ai choisi ce nom parce qu'à Cône, il y a des carrières de marbre rouge. Et ma cave est dans un ancien atelier de marbrier.
D'accord. Depuis quand vous êtes viticultrice ?
Alors, je me suis installée, c'était ma 15e récolte.
Votre 15e récolte, pourquoi on devient viticultrice ? C'est quoi ? C'est la passion qui vous a amené vers ce métier ? C'est quoi ?
Ça fait longtemps que j'avais envie, oui, effectivement, de m'installer en agriculture. Et je suis originaire de la région de Montpellier, et donc j'ai choisi la viticulture.
D'accord.
Mais le Minervois, c'est pas juste à côté de Montpellier ? Pourquoi vraiment dans le Minervois ?
Oh, ça, c'est les hasards de la vie. À l'occasion d'un stage que j'avais fait pendant ma formation, j'avais fait un BTS agricole.
C'est un métier, on le voit aujourd'hui, nos premières invitées sont des femmes, qui n'est pas obligatoirement masculin, le travail de la terre, le travail des vignes.
Pas du tout. Bon, il y a des choses qui sont un peu difficiles, parce que quand il y a des choses un peu lourdes, mais sinon, le reste, on peut le faire de la même façon qu'un homme.
Alors, on est obligé de parler de cet été, de cette saison. On a vu qu'il y avait la sécheresse partout en France, y compris chez vous. Il y a eu aussi des périodes de gel. Ça va être compliqué cette année au niveau de la récolte ?
Alors, en ce qui me concerne, j'ai eu une meilleure récolte que l'année dernière. Mais bon, l'an dernier, j'avais eu moins de 50%, donc c'était plutôt bien que j'en ai un peu plus. Donc ça, c'était par rapport à la sécheresse. Parce que nous, on est quand même sur le flanc de la montagne, donc on a quand même eu quelques pluies cette année. Par contre, j'étais aussi un petit peu gelée sur un plantier. Donc ça, c'est pas une perte de récolte immédiate, c'est un manque à gagner, puisqu'on perd un an sur la mise en place de la vigne.
Et vous travaillez plusieurs cépages ?
Alors j'ai 7 ou 8 cépages, oui.
7 ou 8 cépages ?
Voilà.
Vous avez quoi comme...
Donc il y a les cépages traditionnels du Languedoc, le Syrah, Carignan, la Syrah, le Mourvèdre, le Grenache. Ouais. Ensuite j'ai aussi du Chenançon, de l'Aramon. Donc l'Aramon c'est aussi un vieux cépage du Languedoc. Et j'ai du blanc, donc une vigne en roussanne. Et je viens de faire un surgreffage avec 5 cépages blancs différents.
Ça, ce sont des cépages qu'il y avait déjà sur votre domaine ou voilà, c'est vous qui avez modifié un peu suivant...
Alors c'est un domaine que j'ai pris en fermage où il y avait déjà effectivement une variété. Puis après j'ai trouvé d'autres parcelles autour. Par exemple le blanc, je ne l'ai pas eu tout de suite.
Alors là, vous nous avez amené une bouteille. Expliquez-nous alors, qu'est-ce que vous nous avez amené comme
Alors je vous ai apporté une bouteille de Minervois 2014. Donc la base de mon, ça c'est mon cœur de gamme, la base c'est le Mourvèdre, qui est dans un terroir de plutôt de grès, et il est assemblé avec du grenache et de la Syrah. Donc 2014 c'était une belle année, le grenache apporte un côté assez friand, voilà.
Vous faites que du rouge ou vous faites également du blanc ou du rosé?
Alors, je fais aussi du rosé avec la Ramon et je fais aussi du jus de raisin. Voilà, ça c'est un complément de gamme qui est... Bon, c'est un peu le cadeau de l'année, c'est-à-dire là vous pouvez déjà déguster des 2017. Voilà, et puis du blanc aussi.
Vous êtes sur une exploitation de combien d'hectares à peu près?
Alors c'est un domaine de 5 hectares, donc comme je dis, je suis vigneronne première génération, c'est-à-dire que c'est moi qui ai créé le domaine. Et voilà, 5 hectares mais qui sont des parcelles assez dispersées, c'est pas un domaine qui est... Enfin, le bâtiment et les vignes autour. L'avantage, c'est que j'ai des terroirs très différents. En plus, les vignes sont sur Féline, Minervois et La Livinière, donc sur le cru La Livinière également. Et ça permet, ben, quand il y a du gel ou de la grêle, de ne pas être touché trop, de façon trop importante sur le domaine. Et puis ça permet d'avoir des assemblages assez riches, assez complexes.
D'accord, c'est du 13 degrés, c'est ça?
Il fait
13,5.
Plutôt entre 13,5 et 14, nos vins.
D'accord. On a l'impression que dernièrement, il y a une tendance à ce que, au niveau des consommateurs qui cherchent des vins de moins en moins forts. Est-ce que c'est moi qui affabule ou c'est vous le ressentez, vous?
Ben ça, je pense que c'est lié au mode de vie. C'est-à-dire que quand on travaille dans des bureaux ou quand on a une vie sédentaire, c'est vrai que si on boit des vins trop forts, après, c'est un petit peu difficile. Et le problème, c'est que ça va à l'encontre du changement climatique et du fait que pour avoir des maturités, on est parfois obligé d'attendre assez longtemps.
Mais ce que j'allais dire, cette année, justement, on en parlait tout à l'heure, avec la sécheresse, il doit être assez concentré, le raisin.
C'est assez concentré, oui, mais bon, les maturités n'ont pas été si précoces que ça. Bon, moi, mes vendanges s'étalent sur à peu près 5 semaines. J'ai 10 jours de vendanges, mais qui sont étalés sur 5 semaines. Donc on attend à chaque fois que les cépages soient mûrs. C'est pas les vendanges traditionnelles où on commençait, bon, quand les gens avaient, c'était la monoculture du Carignan, on commençait, on travaillait pendant 15 jours et puis c'était fini. Là, c'est pas du tout ça. Et on essaye donc de ramasser à maturité optimum. Donc parfois, il faut faire des choix entre soit les tanins très mûrs, soit des vins avec moins de sucre, donc moins d'alcool potentiel, mais aussi moins d'arômes. Enfin, pas les mêmes arômes, en tout cas.
D'accord. C'est quoi ce petit logo qu'on retrouve sur votre bouteille de vin?
Alors, c'est le logo de l'agriculture biologique.
Voilà. L'agriculture biologique, c'est-à-dire si vous avez des cahiers des charges assez précis, des contraintes pour...
Alors, agriculture biologique, ça veut dire sans produits chimiques de synthèse, donc au niveau de la culture de la vigne. Et depuis quelques années, il y a aussi un cahier des charges au niveau de la vinification. C'est-à-dire qu'il y a certains produits qu'on ne peut pas utiliser, mais enfin, moi, j'utilise à peu près rien, donc ça ne me dérange pas. Et les taux de sulfite, les plafonds de sulfite sont inférieurs à ceux qui sont en agriculture conventionnelle.
Et toute votre gamme est en agriculture biologique?
Oui, bien sûr.
Très bien, mais en tout cas, c'est un très très bon vin qu'on conseille à tout le monde. Vous êtes au stand 17, je ne sais pas si ça pourra dire quelque chose, Marie. Est-ce qu'on peut se renseigner quand on arrive ici sur ce salon, dire j'aimerais trouver le stand 17, il n'y a pas de...
Il n'y a aucun souci à l'entrée, on pourra vous indiquer où vous trouverez le stand 17.
D'accord, merci beaucoup d'être venu, Irène Prioton. Donc on rappelle le Clos du Marbrier, c'est à l'espace événement Georges Fraîche pendant 2 jours. On retrouve maintenant notre local de l'étape, notre Lozérienne qui était venue l'an dernier sur cette émission. On était en haut, on n'était pas en bas à l'accueil, vous pouvez bien sûr venir nous voir. Elisabeth Boyer, donc je suis allé voir Guy Saleil pour savoir qui je pouvais avoir un peu dans cette émission, parce que je ne suis pas un professionnel du vin, je suis un amateur qui aime bien ça, qui aime boire du vin mais qui n'y connaît, qui s'y connaît pas plus. Il m'a dit mais le Sauvignon dans cette émission, mais tiens Guy viens nous rejoindre, le Sauvignon d'Elisabeth Boyer à tout prix il faut le présenter. Elisabeth Boyer, bonjour.
Bonjour.
Merci de répondre à notre invitation. Hein. C'est toujours un plaisir de vous recevoir, de recevoir des viticultrices lausériennes en plus. Hein. Guy Saleil qui nous rejoint, qui a trouvé un moment. Merci Guy.
Merci. Et puis j'espère que je ne me suis pas planté avec le Sauvignon, mais je fais confiance à Elisabeth. Il est excellent, donc forcément, ça sera une réussite.
Mais j'en doute pas.
Merci, hein, c'est beaucoup de compliments.
Alors, bon, bien que tu sois lausérienne, qu'on te connaisse ici, on va quand même reparler un peu de ton exploitation. Rappelle-nous un peu où tu es situé. Et qu'est-ce que tu produis comme vin?
Alors, nous, on est situé, notre vignoble est situé au cœur des gorges, du Tarn, entre Saint-Enémy et Ispagnac, dans ce magnifique site classé en face Castelbouc. Et la cave de vinification est sur Ispagnac. Donc, c'est un projet de réimplantation de la vigne qui a vu le jour en 2006. On est sur une exploitation de 5 hectares avec 5 cépages différents, bientôt un sixième, et une gamme de produits assez diversifiée. Voilà.
On en parlait avec les viticulteurs qui viennent de plus bas de l'Hérault. On sait qu'il y a eu des grosses difficultés de sécheresse, voire de gel pendant cette année. Hein. Qu'en est-il sur la Lozère, sur Saint-Enémy, c'est pareil?
Alors sur la Lozère, ben on n'est pas passé à travers. Hein. On a eu aussi une partie gelée, notamment tous les chardonnays ont été gelés à bloc. Une partie des sauvignons et puis ensuite sur les rouges qui sont un peu plus en hauteur, on n'a pas eu de dégâts de gel, mais on a une petite sortie en vin, en fleurs, donc toute petite récolte, mais par contre, voilà, c'est un millésime d'exception.
Voilà, c'est Guy, tu es d'accord avec ça, hein, des récoltes de 10 à 40% plus basses qu'habituellement, mais on va avoir...
Non, pas réellement d'accord
pas
avec
réellement.
Ceci, puisque il faut considérer que sur le Languedoc, bon, là, effectivement, pour les gorges, c'est ce qui va être le cas, mais sur ce grand terroir et ce magnifique terroir du Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, on oscille entre à peu près une perte entre 10 et 40%. Donc ça veut dire qu'il y a des endroits qui ont été réellement touchés, touchés en profondeur. Par contre, et là je rejoins Elisabeth, on va avoir une qualité exceptionnelle en Languedoc. Et moi, à titre personnel, je surveille énormément les vins de la Clape, les vins de Bouténac, parce que je suis persuadé que là on va sortir des perles. Ce sont des vins qui ont été vendangés dans d'excellentes conditions et apparemment ça se passe bien en vinification, donc on va être excellent. Je pense que là, le Languedoc, on va en reparler.
Par contre, là, donc, on est en train de goûter un vin. Vous pouvez nous en parler un peu plus?
Il manque juste le fromage de chair.
Nous faire un peu la présentation de ce
vin. Donc là, c'est un Sauvignon 2016. Donc assez typique du Sauvignon, hein, avec une couleur relativement pâle et des reflets un petit peu verts. Alors après, là, on n'est pas en super condition là pour déguster. Un nez qui est assez intense et assez fruité, qui tire un peu sur le minéral et en bouche, je vais le goûter.
Alors moi je l'ai goûté, effectivement c'est tout à fait excellent. Ce que j'en attendais. Alors il faut savoir que les vins également, on peut les déguster comme ceci, mais on peut aussi les apprécier en cuisine. Et n'oublions pas que le Sauvignon, c'est un vin qui peut se cuisiner. Et ça aussi c'est une particularité, il faut le souligner, bien sûr.
Et particulièrement sur les produits lausériens, notamment la truite de Lozère ou le fromage de chèvre
oui,
ou de
mais,
brebis.
Mais personnellement, moi je fais pas mal de risotto, un riz safrané. Et quand je l'associe avec une crème de moule, je vous assure que les gens, ils vont jusqu'au fond de ce que je leur sers. Ça, il n'y a pas de doute.
C'est vrai qu'on a l'habitude d'associer le fromage avec du vin rouge. Là, a priori, ça se mariera très bien quand même avec du fromage de chèvre, par contre.
Oui, particulièrement. Et il faut surtout ne pas hésiter à essayer cet accord-là parce qu'on a une très belle harmonie entre le vin et le fromage sans qu'il y ait... un des deux produits qui prennent le pas sur l'autre. Donc ça, c'est assez... moi, je trouve que c'est assez magique, justement, cette belle harmonie entre le vin blanc et le fromage.
De plus, on peut travailler également avec des fromages de chèvre aux différents stades de maturité dans ces mêmes fromages-là, parce que le Sauvignon va accompagner à merveille le fromage dès qu'il va être de plus en plus sec, de plus en plus puissant. Moi, je l'ai également comparé un petit peu à ce qu'on produit sur la Savoie, la Jonquière, des choses comme ça. On est un petit peu dans le même fil et on a une richesse incroyable quand on l'associe également avec du comté, par exemple. Et là, il ne faut pas hésiter à l'apéritif. Si vous faites des petits dés de comté, des demi-tomates cerises, des choses comme ça, c'est forcément un sauvignon qu'il va falloir mettre. Mais attention, on s'adresse là quand même à des gens qui sont compétents, qui ont de la connaissance déjà. Si vous voulez faire du kir, on ne va absolument pas sur ça. C'est dommage, c'est un crime.
Évidemment, on peut venir directement vous voir à Hispaniac.
Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Après, on n'est pas tout le temps au caveau, on est souvent dans les vignes, donc il vaut mieux appeler avant de se déplacer.
D'accord, voilà. Très bien. Si pour finir, vous nous avez parlé, il y aura peut-être un nouveau vin qui est en préparation, ça serait
oui,
quoi si c'est
au
pas
printemps, au printemps, on va lancer une cuvée 100% Pinot Noir et 100% Syrah. Et puis, la grande nouveauté aussi du domaine des Cabridel, c'est qu'on est en conversion bio. Voilà.
D'accord. Ça se passe bien, cette conversion? C'est pas trop compliqué
ouais.
à mettre en place?
Non, ça va.
D'accord. Mais merci beaucoup,
merci.
Elisabeth, d'être venue.
Merci
juste une parenthèse
vous.
Là-dessus. Tu vois, ils sont en train de s'orienter sur le Pinot Noir. Ils vont nous sortir des Bourgognes.
Hein. peut-être. Hein, on va voir ça. Merci beaucoup,
merci
Elisabeth.
Merci,
n'hésitez pas à venir voir Elisabeth. Ce stand numéro combien tu
28.
28. Voilà, on demande à l'accueil le stand numéro 28. On parlait d'agriculture biologique. On a du vin bio qui vient nous rejoindre aussi une nouvelle fois. Je vous laisse vous présenter, peut-être.
Oui, bonjour à tout le monde. Alors, je m'appelle Bernard Backhaus et moi je vais vous présenter notre domaine, le domaine Lani Barac, qui se situe sur les coteaux de schiste à Saint-Chinian.
D'accord. Tu connais le coin, toi, dis-moi.
Oui, c'est ça, je connais un tout petit peu vers là-bas, autour de Roquebrun, donc Saint-Chinian, Berlou.
C'est des beaux terroirs, ouais. On est sur des schistes sur les coteaux, hein. On a un joli ensoleillement. Voilà, c'est propice à faire des vins de qualité.
D'accord. Tu peux nous présenter un peu ton exploitation et ton vin aussi. On va le goûter du coup.
Donc le vignoble Lani Barac se situe sur la commune de Saint-Nazaire de la Darèze, à côté de Roquebrun. Et donc le domaine fait 25 hectares, dont 19 hectares de vignes. On est sur les coteaux. Et comme vous le disiez, donc je suis en agriculture biologique. Et donc le gros avantage que nous avons, c'est que la propriété est d'un seul tenant. Du coup, nous ne sommes pas pollués, je dirais, hein, par les voisins en chimie. Donc voilà, c'est un avantage pour l'agriculture biologique.
Et pourquoi choisir justement l'agriculture biologique ?
Moi-même, mon père est formateur en biodynamie. J'ai grandi avec les produits biologiques à la maison. Donc pour moi, c'était tout simplement une évidence de faire de l'agriculture biologique. Donc là, nous sommes certifiés cette année et la prochaine étape, ça va être la certification Demeter en biodynamie. Déjà, nous faisons un petit peu de biodynamie là-dessus. Et surtout, je peux vous présenter notre concept de travail, car notre concept que j'ai nommé la Viti Farm, en fait, on combine le travail de la vigne avec le travail des animaux. Voilà, nous travaillons avec des ânes, des vaches et des cochons que nous mettons dans les vignes en période hivernale.
Ah, je ne connaissais pas ce principe. Guy, tu connaissais ce principe ?
Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui est en train de se mettre en place également dans d'autres zones. Maintenant, ici, on a affaire à quelqu'un qui a du recul, qui a de l'expérience. Il faut quand même être méfiant avec le type d'animaux que l'on va mettre. Et également, il faut quand même réfléchir sur le terroir que l'on a et sur le sol que l'on a. On ne peut pas mettre ça sur
fait.
N'importe quel encépagement. Voilà.
C'est
donc il y a quand même
travail, ouais.
beaucoup de prudence. Ce qui veut dire que pour s'orienter sur ce principe d'exploitation, de travail de sol, il faut déjà connaître particulièrement bien son propre sol. Et on ne peut pas généraliser ça à un domaine. On va le faire que d'une façon parcellaire. C'est-à-dire, on va amener des animaux que sur une parcelle et ça n'est pas valable à 10 mètres à côté.
Tout à fait. Justement, donc les animaux, nous les faisons travailler dans les parcelles qui sont les plus pentues, parce que nous sommes en coteau plein sud, assez pentu, où je ne peux même pas accéder en chenillard. Du coup, les animaux travaillent sur environ une surface de 4 hectares du domaine, voilà, parce que ce sont des vieux gobelets et inaccessibles, voilà, avec les machines.
L'exploitation à quel âge ? Le domaine à quel âge ?
Alors le domaine est tout récent, nous l'avons créé avec mon épouse il y a 4 ans, mais les vignes elles sont très âgées, on est moyenne d'âge autour de 50 ans de moyenne d'âge, ça va de 10 ans à 107 ans pour les vieux carignans.
On s'aperçoit également qu'on a un retour un petit peu à la viticulture du temps des Grecs, voire des Romains. On ramène des animaux dans les vignes, mais on ramène également d'autres cultures. On va avoir des vignes de plus en plus qui seront étoffées avec quelques arbres, notamment des oliviers, des pêchers de vignes, des choses comme ça. Il faut avoir une excellente connaissance également de la vie de l'insecte, parce qu'il ne faut pas amener des parasites. Mais par contre, quand c'est fait intelligemment, avec une bonne réflexion comme ça, on peut justement trouver des parades à quelques insectes nuisibles.
Vous avez tout à fait raison. C'est pour ça que nous faisons une polyculture et pas une monoculture. Nous avons beaucoup d'arbres fruitiers. Nous avons un projet de planter des haies. Donc ça, c'est une mesure agro-environnementale. Créer des mares, planter d'autres arbres fruitiers. Et donc, en fait, avec les animaux et ces fruitiers, nous recherchons en fait un équilibre entre le règne animal, végétal et minéral.
Alors, par contre, c'est vrai que c'est un pari risqué, parce que ça veut dire que tous les ans, ils sont obligés de revoir un peu tout leur travail carrément. Il faut bien comprendre que l'animal a un impact sur le sol, a un impact sur le produit. Et mon verre, c'est celui d'à côté. C'était, si, ça allait encore. Et encore, j'en suis qu'au premier verre. Je veux dire par là qu'effectivement, dès qu'on passe, on a passé une saison, ce qui est vrai aujourd'hui ne sera pas demain. Il faut réétudier l'ensemble. Et là, vraiment courage. Hein.
Donc, vraiment. Là, tu nous as amené un vin. Tu peux nous en parler un tout petit peu?
Bien sûr. Donc, ça, c'est une cuvée. J'en suis très fier, puisqu'on est sur un 100% carignan, justement, des vieilles vignes qui sont centenaires. Le carignan, on le connaît, hein, c'est l'histoire du carignan dans le Languedoc, qui a énormément souffert. Et j'ai la chance aujourd'hui d'avoir encore 4 hectares de vieux carignan. Ce carignan-là, j'y mets beaucoup de travail. On est sur une sélection parcellaire donc qui représente 2 hectares de vieux carignan centenaire, où je fais une macération carbonique longue dessus et je refais une sélection des meilleurs jus en cave. Donc là, on a la cuvée L'Infini sur un millésime 2016. On est sur la jeunesse, mais on est sur quelque chose d'assez soutenu. On a une belle longueur et rondeur en bouche, mais très complexe. On est des arômes de fruits noirs, fruits rouges, on est un peu d'épices. Même des fois, je lui trouve quelques notes de cacao. C'est un vin qui est complexe, très soutenu, mais avec une belle rondeur. Donc voilà, ça, c'est vraiment le vin qui va pour maintenant, un vin d'automne, un vin d'hiver, pour accompagner des plats en sauce, des civets, du sanglier, par exemple. Ça, c'est...
Alors, moi, je le trouve excellent. Notre connaisseur, Guy, qu'est-ce que tu retiens de ce vin? Qu'est-ce qu'il te dit?
Alors, je le trouve très bon. Je dirais pas excellent. Je le trouve très bon parce que effectivement, c'est un vin qui doit être excellent, mais là, il n'est pas dans de bonnes conditions. Je trouve que encore, il me râpe un petit peu, il accroche, je le sens sur le plafond.
On est sur la jeunesse. Oui.
Voilà. Donc, je pense que ce vin, il faut encore ou quelques heures d'ouverture pour celui-ci, ou après quelques mois de repos. Après, c'est un vin qui vient d'être déplacé. Donc là aussi,
il vient d'être déplacé. Il est un peu frais, trouve aussi.
Il fait 13%, et on sent pas on le sent pas fort.
Alors en fait, le carignan, quand il est bien travaillé, c'est un cépage qui est particulièrement élégant. Hein. Et ici, on est avec un 100% carignan, donc c'est courageux aussi. Mais ça se voit, le gars, il connaît vraiment son job et son domaine, donc c'est parfait, il n'y a pas de doute là-dessus. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que effectivement, c'est des vins qui sont tellement agréables et tellement élégants. On n'est pas du tout dans les bonnes conditions pour déguster. Et ça, ça lui portera tort.
Ici.
Il faut vraiment l'acheter, le garder un peu et se poser. C'est un vin pour des bonnes soirées.
Et t'as plusieurs gammes. Je suppose que t'as plusieurs vins quand même.
Oui, bien sûr. Produis 3 rouges, un rosé et un blanc atypique. Pour la petite histoire, c'est que j'ai pas de vignon blanc. J'ai juste quelques pieds de vieux muscat. Et donc l'idée m'est venue de faire un blanc de noir. On est sur 95% de grenache noir avec 5% de muscat, et c'est quelque chose vraiment d'atypique et original qui plaît énormément, puisque c'est un vin assez gastronomique qui se marie avec plein de choses, des plats asiatiques, des foie gras, des crustacés, vraiment à venir découvrir. Ça plaît beaucoup, surtout pour les fêtes maintenant. c'est un vin original.
Je reviens juste un petit peu sur ce Carignan également. Alors là, je vous ai laissé parler et j'ai essayé de l'analyser un petit peu. Bon, effectivement, on y retrouve tous les saveurs qui ont déjà été décrites. Mais vous ressentez un petit peu cette longueur en bouche. Ça, c'est l'élégance d'un vin. Et cette élégance-là, tous les vins ne l'ont pas, y compris sur le Languedoc et sur le Roussillon. Et ça, lui, c'est évident, on est dans une belle gamme.
Ça c'est quelque chose que je fais vraiment attention quand je vinifie. Pour moi, un bon vin, tout d'abord, le critère numéro un, c'est l'équilibre. Il faut qu'il y ait rien qui soit au-dessus, ni trop alcooleux, ni trop tannique, ni trop astringent. L'équilibre, c'est ma règle numéro un. Et comme vous disiez, mon deuxième critère de qualité, c'est la longueur en bouche. C'est très décevant quand un bon vin disparaît en bouche. Donc la longueur, pour un peu plus décrire ce vin, vous avez cette longueur en bouche puisqu'on est sur un vin qui est non filtré. Du coup, on garde vraiment, je dirais presque la pulpe, mais... C'est toujours un petit exemple que je donne à mes clients, c'est qu'est-ce qui est meilleur, un jus d'orange pressé ou un concentré d'orange.
En tout cas, merci pour cette belle découverte. Mais il y a plein de belles découvertes au Salon du Vin pendant ces deux jours. On vous invite à venir. On vous rappelle, l'entrée est bien entendu gratuite. Venez, il y a beaucoup d'animations. On en a parlé avec Marie dans la première partie des missions. Merci beaucoup. Vous êtes situé sur quel stand ?
Merci. À numéro 4.
Numéro 4, vous pouvez le
demander. On peut rappeler peut-être juste un peu l'adresse de ce domaine parce que les Lozériens ont tendance de plus en plus à faire du tourisme dans l'œnologie. Donc, n'hésitons pas.
Très bien, merci. Puisque j'organise aussi des balades vigneronnes. Si vous voulez venir découvrir le domaine Lagny Barrac à Saint-Nazaire de la Darèze ou Roquebrun.
Mais pour les sarmentelles, vous organisez des sorties, Guy.
Et ça, c'est très intéressant parce que les gens qui ont la passion justement de la découverte du terroir et surtout échanger avec le producteur, parce que là aussi, pour comprendre un vin, il faut comprendre la façon dont il est élaboré. Donc le mieux, c'est d'aller carrément rencontrer le producteur chez lui. Et avec les sarmentelles, une fois par an, on part 3-4 jours et on va sur le terroir.
Et bien, il faudra y aller.
On va rencontrer les gens. Oui, mais le problème, c'est qu'on part qu'une fois par an.
Voir condenser plein de sorties.
Et là, je pense qu'effectivement, ça risque d'être le but d'une prochaine sortie.
Avec plaisir.
Merci beaucoup. On va faire une petite pause musicale pour faire un changement de plateau et trouver d'autres viticulteurs pour qu'ils viennent nous présenter leur vin. Merci, Corentin. On te laisse envoyer de la musique.
Inside of love.
Allez, c'est reparti. C'est une passion, Eric, le vin.
Oui, c'est une passion.
Ah ben, tu as bien raison.
Je suis tombé dedans, comme Astérix.
Voilà. deux nouveaux invités qui nous ont rejoints. On vous remercie d'être là. On va vous laisser vous présenter à tour de rôle. On va commencer par madame.
Donc, Stéphanie, donc, c'est le domaine du Mas Alexandre qui est situé donc, à Agnan. Donc, c'est au nord-ouest, à 30 km de Montpellier, à peu près.
D'accord, dans l'Hérault. Agnan. Monsieur.
Donc, Anthony, du domaine Le Clos du Luquier, sur le terroir des terrasses du Larzac. Donc, pas loin de madame, on est à 12 km l'un de l'autre.
Un peu plus en hauteur.
C'est ça, sur la commune de Jonquière.
D'accord, ben on va poursuivre avec vous. Larzac, Guy,
le Larzac, ils sont en train de faire de gros progrès. Hein.
Oui,
là, maintenant, on commence à jouer dans la cour des grands, puisque ce terroir, c'est quand même du caillou, c'est de l'éclat de pierre, de calcaire. Donc, la vigne, elle travaille très vite. Il faut faire attention à ce qu'on y met dessus. Par contre, il y a une grande diversité, parce que rien que dans les terrasses du Larzac, hein, ça part de bas, puisque ça flirte avec Gignac, etc.
C'est ça. Et ça remonte jusqu'à l'escalette.
Et ça remonte très haut, donc ça veut dire qu'on passe avec des altitudes tout à fait, avec une grande amplitude des altitudes. Ceci dit, on y trouvera aussi des petites perles. Je fais un clin d'œil également à une personne que je connais bien là-bas. C'est le fils de Jean-Philippe Granier. Il a relancé les vignes oubliées. Et les vignes oubliées, pour expliquer, donc, c'est pas de la vigne en longueur. Il est reparti sur un terroir d'altitude, si on peut dire. Et là, il faut ramasser la terre pour planter le cep, etc. Mais au résultat, on a une concentration exceptionnelle. Et puis, il a pu relancer des vieilles vignes, et ça, c'est bien. Donc, ben voilà. Alors, Agnan, c'est quand même
aussi,
tout près. Hein.
Terroir,
il voulait dire quelque chose.
Non, je voulais savoir, justement, on y met quoi comme cépage sur le Larzac, sur les plateaux
Alors, un cépage, dans l'appellation, un cépage principal, il y a la Syrah, le Grenache et le Mourvèdre. Et en cépage secondaire, il y a le Saint-Sauveur et le Carignan.
Bon, ça, c'est intéressant quand on fait de l'assemblage, hein, parce que déjà, là-haut,
on est obligé,
AOP, on a des règles de base à respecter, et notamment avec les cépages principaux. Terrasse du Larzac, c'est juste après quand on commence à descendre déjà. Et c'est vrai que là, on a également des petites parcelles au départ, et après, on commence à avoir de la parcelle un peu plus de plateau,
de
plaine. Voilà.
Vous êtes situé à quelle altitude?
Ben nous, Jonquière, on est à 200-300 mètres, pas plus.
D'accord, donc voilà. c'est pas ouais. Très haut.
Non, c'est pas très haut.
Vous nous apportez du vin? Expliquez-nous, là, quel vin vous venez nous présenter?
Oui, alors c'est la cuvée phare du domaine, c'est la cuvée Philippe.
Ah. Il va montrer des belles choses, on attaque un très bonheur comme ça. Et par contre, alors le domaine, combien d'hectares à peu près?
15 hectares.
On
a 14 hectares de rouge et 1 hectare de blanc.
Ça, c'était un domaine familial?
C'est ça.
Oh, on est vraiment sur un vin en couleur groseille, là, avec la lumière. D'accord. Et vous êtes à combien à travailler sur ce domaine-là?
On est trois.
Trois, voilà.
Trois.
Bon, c'est à peu près, c'est la moyenne à peu près, effectivement. Et vous travaillez sur les trois couleurs, j'imagine, le blanc, le rosé, le rouge.
C'est ça. Mais le plus qu'on fait, c'est bien sûr la terrasse du Larzac. On fait aussi du Mont-Pérou. On a 4 hectares sur Mont-Pérou. Donc,
vous glissez un peu sur le Saint-Félix?
On a des parcelles sur, on a quelques parcelles sur Saint-Félix, ouais.
D'accord. Vous n'êtes pas intéressé au Grenache gris?
Pas pour le moment.
C'est dommage ça, parce que ça c'est délicieux, hein. À Saint-Félix, il y a un producteur qui s'est lancé là-dessus et c'est extraordinaire. Je suis sûr que vos terres sont tout à fait propices à ce cépage. Mais vous allez faire l'essai.
À voir.
D'accord.
Donc sur cette cuvée, on a les 4 cépages rouges du domaine: Syrah, Grenache, Mourvèdre et Saint-Sauveur à l'équilibre. Il n'y a aucun dominant. Et on est sur un an d'élevage, moitié de l'assemblage passé en cuve et l'autre moitié passé en barrique pendant un an. Voilà.
Le choix de la barrique, quand on fait un assemblage comme ça, c'est quelque chose que vous avez hérité ou que vous avez décidé vous de mettre en place?
Ben, on voulait quand même des vins dont les tanins soient fondus, bien fondus. Donc on utilise des barriques de 3 à 5 ans. Donc pour pas que ce soit pas trop marqué, trop marqué sur le bois.
D'accord, voilà. Oui. Là, déjà, le nez est tout à fait honnête. Hein. Je veux dire qu'on a une belle palette qui accroche. Ça donne envie de le goûter. Ben, je vais le goûter.
Allez.
Il est étonnant.
Disons que souvent, on nous dit que le nez est très différent de ce qu'on a en bouche. C'est-à-dire, au nez, on va avoir quelque chose de très fruité, très limite un peu animal aussi. Et en bouche, on a vraiment la fraîcheur que se dégagent les vins des terrasses du Larzac.
Bon, je reconnais tout à fait la base des terrasses du Larzac, il n'y a pas de doute là-dessus. Par contre, c'est un peu dommage, je le trouve un peu chaud.
Ah.
Ouais. Et ça, il va falloir y remédier. Hein.
Il aurait 2-3 degrés de mais en un préposé au glaçon. Mais qu'est-ce qu'il fait, ce monsieur Pascal?
Voilà, parce qu'on n'est pas dans des bonnes conditions.
Sérieux,
là, hein.
Pour être sérieux, c'est vrai que le vin, on sent qu'il est bien. Mais on a atténué ce côté un peu croquant. Parce que je pense que le croquant qu'on attendait, on l'a pas là. On l'a pas parce qu'il est malheureusement trop en température.
Il faut baisser le chauffage dans la salle.
Ouais, c'est ça. Mais ou alors il fallait pas mettre le chauffage dans la voiture pour revenir.
On peut le marier avec quoi, ce à table, ce vin? Il se marie avec quoi?
Nous, on le possède plus sur des viandes légères.
Des viandes légères.
Oui, mais là, on peut l'associer quand même avec des viandes agréables, comme par exemple de l'agneau au grill avec un peu de romarin, des choses comme ça. Ça peut être délicieux. Hein.
Oui.
Il faut pas hésiter. Hein. Faisons-nous du bien avec la bonne nourriture. On a encore de bons produits, alors profitons-en. Mais je pense que ce vin-là est particulièrement agréable. C'est un vin à partager très facilement.
C'est ça.
On
accessible.
L'associera ultra accessible. Facilement avec les menus, voilà. Ça, c'est très bien, oui. Et là, vous produisez beaucoup en quantité sur ce vin rouge
là, au final, parce que là, on va replanter, on a replanté 2 hectares cette année et 1 hectare l'année prochaine. Au final, ça va être la moitié de notre production, quoi. Donc, on va avoir à peu près 40 ou 50 000 bouteilles de ce vin-là.
Vous allez modifier un petit peu l'assemblage après?
Non, quand même, on reste quand même sur un fil conducteur sur nos cuvées. Donc, on essaye à chaque fois de retrouver les mêmes profils.
Pour moi, c'est une belle surprise, encore que quand on est sur les terrasses du Larzac, je le disais, c'est un terroir que j'aime beaucoup et qui a tellement travaillé pour se bonifier, pour faire du beau produit, que le résultat, maintenant, on l'a dans le verre. Je suis content, finalement, parce que c'est un vin qui me plaît beaucoup et qui est à partager sans modération, aucune, parce qu'il est tellement simple à associer à de la cuisine de tous les jours et même une cuisine du dimanche, hein, comme on disait auparavant, ça, c'est bien. Après, plus frais, nettement plus frais, je le verrai très bien, même quand on fait un petit apéro.
Vous nous rappelez, pour venir vous rencontrer, exactement où vous êtes situé, votre nom de domaine?
Alors nous, c'est le Clos du Luquier, sur la commune de Jonquière, donc entre Saint-Félix et Montpérou. On est vraiment à 5 minutes de l'autoroute de la 75, donc très accessible.
Voilà, donc ne pas hésiter, quand on remonte en Lozère, les Lozériens, s'arrêter au passage... pour venir vous rencontrer. Merci. Vous êtes sur quel stand là aujourd'hui?
Le 36.
Allez, on vous laisse parce que vous avez du monde certainement qui va venir vous voir. On va poursuivre avec
Merci
madame. Il y a beaucoup de viticultrices sur ce salon.
Ça, c'est heureux.
Et oui,
c'est heureux parce qu'on se rend compte qu'à l'endroit où des dames sont associées dans la vinification, parce qu'on les retrouve quand même pas mal dans ce domaine-là. On a une évolution qui est incontestable au niveau du vin. Et je ne parle pas dans des vins féminins, comme on pourrait les sous-entendre, mais dans des vins d'élégance, ces vins qu'on recherche de plus en plus. Et ça, c'est vraiment un côté plus que positif pour nous, le Languedoc. Je crois que c'était cette touche-là qui nous manquait pour arriver à s'affirmer davantage.
C'est quoi un vin d'élégance?
Un vin d'élégance, ce n'est pas forcément un vin qui va se boire n'importe quand, n'importe comment. C'est un vin où on va prendre le temps de le laisser arriver à maturité. C'est un vin que, mais déjà, il va être dans une tranche de prix un peu plus élevée que les classiques, mais on va l'associer avec de la cuisine raffinée. Je veux dire, c'est fini le temps des daubes, des choses comme ça. On n'en parle même plus. Aujourd'hui, on a envie, quand on commence à travailler avec du bœuf, on va travailler avec un bœuf bio, des choses comme ça. On va déjà vers une cuisine un peu plus sophistiquée, un peu plus travaillée, un peu plus réfléchie. Et on va également aborder des légumes nouveaux, ces fameux légumes anciens qu'on avait oubliés et qui sont travaillés d'une façon beaucoup plus intelligente aujourd'hui. Le vin d'élégance, c'est celui qu'on va déguster jusqu'à la lie, si on peut dire. C'est un vin que l'on va préparer avant de le déguster. On va l'ouvrir suffisamment tôt. On va l'amener à la température la plus adaptée. Pour moi, le vin féminin, on va le boire par exemple à 14, 15, voire 16. Mais le vin d'élégance, de finesse, lui, sera forcément à 17 degrés. Pour moi, c'est la bonne température. Voilà.
Vous faites du vin d'élégance, madame?
On essaie. On essaie. C'est vrai qu'on a des produits quand même assez atypiques, hein, par rapport à ce qu'on retrouve notamment en terrasse du Larzac. Nous, on a fait le choix de faire de l'IGP, l'IGP Saint-Guin, et d'associer en fait des cépages qui ne sont pas dans l'appellation. Le blanc, c'est un chardonnay, un sauvignon, un uniblanc. On reprend aussi des anciens cépages. Sur du rosé, on est parti sur de la Syrah, du Caladoc et du Cinsault, qu'on a rajouté aussi. Caladoc, c'est un métis de Grenache et de Malbec, mais à petit rendement, ça fait des choses quand même très, très sympathiques. Et sur les rouges, on est aussi sur un mélange de Syrah Caladoc. Donc on a fait le choix de partir sur des cépages qui ne sont pas spécialement en appellation, même si on a une partie de l'exploitation en appellation. Et que ce soit ces Sauvignons ou ce Caladoc, on l'a mis plutôt en bordéro, sur des graviers, des terres qui sont très très chaudes, ce qui fait qu'on arrive à avoir des choses vraiment une maturité, en surmaturité même. Donc on arrive à avoir des produits très fruités et vraiment qui sortent un petit peu du panel qu'on retrouve toujours, Syrah, Grenache.
Alors basique. Ce qu'il faut remarquer, voilà, elle est en train d'en parler un petit peu et c'est sous-entendu. On a parlé IGP, on a parlé AOP, on a parlé tout ceci. Aujourd'hui, on va sur les vins de France. L'étiquette, c'est bien de s'y fier, mais ce n'est pas parce qu'on lit IGP que c'est un vin bas de gamme. Je veux absolument insister là-dessus, parce que l'IGP, on s'aperçoit que quelquefois, il est bien au-delà de ce qu'on pourrait en attendre, et il passe bien au-delà de ce qu'un AOP ou un AOC pourrait nous apporter. Bon, il y a ceci. Ensuite, pour des domaines comme le sien, parce qu'ils veulent aller justement dans quelque chose de très précis, de très pointu, dans la finesse ou l'élégance, comme on le disait tout à l'heure, ce sont des gens qui vont faire une vinification presque parcellaire. Ce qui veut dire que ça nécessite un travail énorme en cave. Et ça, c'est très très important, parce qu'avant d'arriver à la cave, ça veut dire aussi qu'il y a une sélection sur le vignoble. Et là aussi, on va surveiller la maturité du raisin, et on ne vendangera pas toute la parcelle. On va vendanger ce qui est prêt, et on complétera après, etc. Ça, c'est un travail extraordinaire.
C'est tout à fait le cas, surtout au niveau du blanc. Donc, les Sauvignons et les Chardonnays sont ramassés le même jour, pour avoir une volonté de surmaturité. Donc, les Sauvignons sont vraiment très, très mûrs quand les Chardonnays arrivent. Et c'est pour ça qu'après, on est quand même un petit peu obligé de rééquilibrer ces produits. Et c'est pour ça qu'on vinifie après, beaucoup plus tard, un petit peu du nid blanc, pour amener un peu cette acidité, ce peps qu'on aurait perdu en ayant des raisins sur maturité.
Bon, moi, j'avoue que les chardonnays, sincèrement, je donne mon point de vue, les chardonnays, tout le monde peut en faire, c'est quand même commun. Voilà. Le sauvignon, attention, je suis un peu pointu là-dessus, donc je viendrai goûter le vôtre.
Oui, il est là.
Ah, d'accord.
C'est celui-là que j'aime.
Mais là, j'ai apprécié, parce que le fait que vous vendangez dans la même journée, ça m'intéresse, vraiment. Après, par contre, on a parlé un petit peu des rosés. Alors, les rosés, c'est pas une bête noire, mais il faut quand même en parler.
Est-ce que c'est vraiment du vin, le rosé ?
Les deux principes de rosé. Alors là, la question,
c'est
va
la
là.
Polémique, ça. C'est hein la polémique. Ah.
Bon, bonjour. Non, mais
c'est ça, vous pouvez parler.
Bon, c'est vrai que c'est issu du raisin, ça. Il n'y a pas de doute. Mais après, il y a rosé quand même. Je veux dire par là.
Ah ben c'est comme le rouge. Hein,
quand on fait du rosé de saignée, du rosé de oui, pressurage.
C'est vrai, quand on voit le rosé de pamplemousse ou ce genre de
choses. Alors, c'est autre chose.
Alors ça, on ne parle pas de la même catégorie. Et je me permets quand même de porter quand même des informations complémentaires. Rosé pamplemousse, sa dénomination vous dit bien que c'est du rosé avec du pamplemousse. Donc je ne sais pas dans quelle vigne vous voyez des pamplemousses pousser sur les souches. Bon. Non, en ce qui me concerne, je me présente puisque je suis arrivé en cours. C'est Monsieur Delonca, du vignoble Delonca, où on est venu exposer aujourd'hui par cette belle journée. Vignoble Delonca.
Delonca, vous êtes situé où ?
On est sur la commune de Cerce, à côté de Béziers, près des mers. Voilà.
D'accord. Bien, on va continuer avec vous pendant que Madame nous sert de son blanc, justement, pour qu'on puisse le goûter, qu'on revienne dessus.
Donc je me permettais donc de réagir quand j'entendais que les rosés, ce sont pas des vins où on peut trouver des choses qui sont assez incohérentes, d'après moi, puisque dans notre exploitation, on a sélectionné des parcelles avec des cépages que l'on a justement étudiés pour faire que du rosé. Voilà. Donc ce sont des parcelles bien spécifiques avec des cépages méditerranéens que l'on a exposés sur des coteaux, bon, qu'on n'a pas pu amener ici, c'est dommage pour la dégustation parce qu'on ne parlait que de rouge et de blanc et je n'ai pas donc amené les rosés, mais c'est vraiment un travail de fond. Voilà. Donc ce sont des cinceaux qui sont travaillés sur des coteaux avec des cordons royales, sur des argiles argilo-calcaires. Ce sont des cépages qui font des rendements entre... maximum 50 hecto-hectares avec des macérations pelliculaires pour faire des bons rosés, des pressés. Donc on ne peut pas dire que ce ne sont pas des vins nobles, quoi. C'est vraiment des vins à part entière. Et je me battrai pour ça, quoi. Voilà.
Mais quand on a la conviction, il faut absolument défendre ce que l'on fait. Et puis c'est très bien. Après, il faut accepter, bien sûr, qu'il y ait des gens qui se spécialisent dans un domaine plutôt qu'un autre. Vous le disiez, vous avez élaboré des parcelles pour arriver à un résultat pointu dans le rosé. C'est très bien. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître que le marketing tue un petit peu le vin parce que qui est-ce qui achète ce vin-là dans les grandes surfaces? Ce sont essentiellement des dames. Et qu'est-ce qu'elles font? Eh ben, elles prennent parce que c'est beau, parce que ça peut faire sympa ou autre. Je veux dire, ma femme a l'interdiction absolue d'acheter du rosé en bouteille givrée. De toute façon, elle ne se le permettra pas parce qu'elle est trop compétente là-dedans pour se permettre ce délit.
Un bon packaging, c'est vrai qu'il va faire la première démarche, mais l'emballage ne fait pas la qualité du produit. Et si vous voulez fidéliser quelqu'un, si dedans c'est du rosé pamplemousse, comme je l'ai entendu, forcément il y a beaucoup de personnes qui vont avoir un acte d'achat qui sera peut-être pas le même. Voilà.
On revient, madame, pour parler de donc, cette bouteille que vous venez de nous amener. Parlez-nous un peu.
C'est les Espérelles blanches donc, de 2016. Donc, on a une dominante de chardonnay, quand même dessus. On est à environ à 50% de chardonnay dessus.
Oui, mais le premier nez, là, ce n'est pas du chardonnay.
Non, c'est le sauvignon qui prend systématiquement le dessus.
Ah, voilà.
Après, on a 40% donc, de sauvignon et 10% du nid blanc. Et le nid blanc, vous allez. Alors, dans un premier temps, on a le sauvignon, qui nous amène toutes ces notes exotiques vu qu'il est en surmaturité. Après, quand vous allez le goûter, on a la rondeur du chardonnay un peu qui assouplit un petit peu tout ça. Et en finale, il y a l'uni blanc qui prend la relève. Donc on est quand même sur un vin fin, fruité, qui a du corps. Voilà.
On pourrait dire que c'est un vin complexe quand même, parce qu'effectivement, vous l'avez dit, oui. Hein, il y a ces trois étapes et on les retrouve absolument... Moi, j'ai été surpris déjà au nez parce que je ne m'attendais pas du tout à voir ça dans la coupe du verre.
Ça, c'est vraiment la surmaturité
qui fait ça.
Immédiatement,
on l'a, ça arrive. Et puis, c'est vrai qu'en bouche, il a de l'élégance.
Une minéralité, ça vient du terroir.
Voilà.
Anne-Yann, nous sommes très minérales.
Je pense qu'effectivement, c'est un raisin qui est vendangé à bonne maturité. Parce qu'on ne trouve pas de défaut sur la langue du tout. Là, il n'y a aucun doute.
J'aimerais bien avoir l'avis de notre ami viticulteur sur ce vin.
Effectivement. On ne peut que féliciter la vigneronne, à l'occurrence.
C'est ça.
Son mari est dans la salle.
Et avec aussi.
D'accord,
oui.
Mais
je préfère le préciser avec
les accidents. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème à ce sujet. Donc, c'est un vin très, très équilibré, où on sent très bien la recherche de qualité en faisant des vendanges en surmaturité, avec un bon assemblage et une petite touche de finale avec cet uni blanc qui porte un peu plus de fraîcheur.
37.
C'est très bien.
37.
Rappelez-nous exactement où est situé votre domaine. Pareil, si on veut venir vous rencontrer directement sur votre exploitation.
Donc, on est sur Anne-Yann. Donc, on se situe entre Clermont-l'Hérault et Montpellier, à peu près à mi-chemin, un peu dans les terres, tout à côté de Saint-Guilain-des-Herts, pour ceux qui viennent dans la région. Et on est vraiment sur, on est à 30 minutes de Montpellier à peu près, au nord-ouest.
Et oui, Anne-Yann, c'est un terroir qui est particulièrement intéressant. Si on fait un peu d'histoire, on se rappellera qu'en 751 est né Monsieur Vitiza, qui est beaucoup plus connu aujourd'hui sous le nom de Saint-Benoît.
Saint-Benoît
qui a été élevé grand écheteau, qu'on appelle par Louis le Pieux, le plus jeune fils de Charlemagne. Et c'est Saint-Benoît qui a fait la sauvegarde du vignoble languedocien, notamment, en implantant les premiers monastères et abbayes. Il a commencé à mailler tout le Languedoc, avec bien sûr Anne-Yann, mais après on en retrouvera d'autres, Saint-Guilain-des-Herts, etc. Ensuite, il a fait une ouverture sur toute la France et puis sur l'Europe, avant de revenir faire Fontfroide, Valmagne, etc. C'est vrai que Saint-Benoît a sauvé vraiment le terroir du Languedoc. Je voulais le dire parce qu'à Anne-Yann, j'y amène régulièrement des amis. Il y a une palette étourdissante de saveurs dans ce secteur-là. Et puis, il a été le théâtre d'une guerre. Il n'y a pas très longtemps, qu'on ne réveillera
guerre,
pas.
Ah non, surtout pas.
Et je trouve pitoyable qu'il y ait des gens avec des noms en rallonge qui aillent s'intéresser à des terroirs juste dans l'idée de faire monter un prix ou de se faire une bourse là-dessus. Alors qu'à côté, il y a des gens qui se fatiguent à faire quelque chose d'honnête, de propre. Voilà. Donc, Anne-Yann, c'était un terroir qui existait loin en arrière. Il a eu un moment de calme et il faut le redécouvrir aujourd'hui. Mais le redécouvrir, j'insiste, aller plutôt chez des petits producteurs. Pour qu'on ne vous triche pas.
Très bien, c'était la Minute Culture, mais c'est très bien de parler de l'histoire aussi.
Ben oui, parce que c'est
mémoire,
oui, quand même,
tout
ça nous
est
marque.
Lié, tout est lié. Merci beaucoup d'être venu à ce plateau radio. On va goûter le vin de monsieur...
On rappelle peut-être le numéro du stand.
Pardon.
On rappelle peut-être le numéro du stand.
Et le numéro du stand, oui.
Numéro 37.
37, voilà. Quelle heure il est? 11h30, allez, on pousse un peu. On a vu que le maire n'était pas arrivé, donc l'inauguration prend du retard. Donc...
Je te coupe juste la parole bien sur un sujet. Tu parlais de la Minute Culturelle. Je voulais dire que là, pour compléter ce passage-là, en février, je vais faire une première conférence sur la vigne depuis l'origine géologique jusqu'à la vigne d'aujourd'hui dans le Languedoc. Et ça sera une conférence assez longue puisqu'elle va porter sur une heure et demie. On ne peut pas comprimer autrement. Et ensuite, elle sera suivie probablement d'une deuxième qui portera essentiellement sur le vin. Et elle sera suivie d'une dégustation où là...
C'est ce que j'allais te demander. Seront-elles suivies de dégustation ?
Je décortiquerai l'ensemble, mais la culture, elle sera surtout sur la vigne. Voilà, ça, c'était la page pub.
Mais c'est très bien, tu as raison. On va te laisser te servir ton vin, qu'on puisse le goûter, qu'on puisse en parler. Pendant ce temps, je vais te poser quelques questions, Guy, sur ce concours. On sait que le concours ici à Mende, et on en est fiers, les vins qui sont primés ici à Mende sont souvent primés dans les autres salons qui suivent.
Oui, mais c'est normal. Alors moi, quand même, ce que je voulais préciser, c'est que le Salon du vin en Mende, l'idée, c'était déjà de ne pas amener de la reconnaissance sur des gens qui n'en ont pas spécialement besoin. Les grosses machines de guerre spécialisées dans les concours et tout, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse réellement, c'est d'aller vers le producteur, le petit producteur, le vignoble familial, parce que eux... ils se donnent tellement de mal, et c'est avec eux qu'on sauvegarde un patrimoine, qu'il faut absolument, absolument les rencontrer et découvrir ceci. Autant dans une même région, dans un même coin, un même canton, on va avoir 3-4 identités différentes, et ça, c'est particulièrement intéressant. Voilà. Donc la géographie, c'est pas uniquement sur les cartes, c'est aussi sur le terrain.
Ok. Guy, tu as plus de verre disponible ?
J'en ai deux.
Ah, d'accord. Pour goûter...
Allez, alors je vais servir Guy.
Ah, t'as prévu le coup.
Donc, si on reparlait du domaine, justement.
Alors, le vignoble est implanté au niveau géographique entre Béziers et Agde, pour situer les choses les plus connues. On est à proximité de la mer, c'est-à-dire qu'on est à 5 km à vol d'oiseau de la mer. Une exposition sud. Forcément, ce serait compliqué de faire difficilement autrement. Avec des terrains parce qu'on a des terrains profonds qui sont argilo-calcaires, hein, jusqu'à des concrétions calcaires avec des galets roulés qui sont sur des faciès de Villafranchine. Donc, c'est des choses assez différentes. Donc, on a sur le produit. On va continuer sur l'exploitation. C'est une exploitation qui fait 110 hectares de vignes, pour lesquelles on ne vinifie pas tout, malheureusement, puisque la structure ne le permet pas. On a fait la sélection des parcelles qui nous semblaient les plus intéressantes pour les travailler et pour vous les présenter aujourd'hui sous forme de produits, et d'autres que je n'ai pas pu amener parce que, bon, par force, on n'habite pas à côté. Donc, ce sont des vins d'assemblage. Ici, vous avez sur des parcelles de très 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 vieux grenaches qui sont plantées en 1973. Donc, ce sont des parcelles qui sont travaillées depuis plusieurs générations et dont on essaie de mettre le potentiel en valeur sur des vins comme cela. Des merlots qui sont sur des terrains plus profonds, mais ce sont des cordons de Roya qui sont de 1983. C'est des parcelles qui sont plus exposées, enfin plus près de la mer et dont le merlot se comporte bien puisqu'il n'a pas ces problèmes de stress hydrique qu'on peut rencontrer souvent quand on implante des cépages souvent pas très 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 bien acclimatés. Et la Syrah qui est quand même le cépage sur lequel
du Languedoc
sur lequel on arrive à sortir des produits assez exceptionnels et très 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 marqués en tout cas. Voilà.
Alors, quel est ce vin que vous venez nous présenter là ?
Alors là, c'est la cuvée Seca. C'est un produit que l'on a sorti, que l'on a mis en bouteille il y a 6 mois et que l'on a sorti à la vente juste avant le salon, puisque c'était le 15 octobre qu'on a mis ça à la vente. à l'occasion de la Soulinque qui est chez nous, la fête, on fait le pied de nez au primeur, puisqu'on ne fait pas le primeur, mais donc on fait la Soulinque et on vend en principe la cuvée de l'année dernière, la nouvelle cuvée qui sort en primeur. Bon, mais c'est pas un primeur, mais c'était 22 ans, voilà. Donc c'est le produit que je vous ai amené, qui a une histoire, puisque bon, ce sont les initiales de mon papa et qui a malheureusement quitté cette terre l'an dernier. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil à mon papa et que je tenais à souligner.
Guy, sur ce vin?
Ben, tous les vins ont une histoire et ça c'est intéressant de la connaître.
C'est ça qui est beau.
Ce vin-là, je trouve que c'est un vin qui est quand même un petit peu jeune.
Tout à fait.
Voilà.
Tout à fait.
Donc là aussi, ça va être un vin un petit peu détente, convivial, à échanger rapidement. Et il n'y a pas grand-chose à dire sur ceci. Par contre, effectivement, là, je ne le trouve pas au mieux de sa forme. Je pense qu'il aurait fallu que je le serve un peu plus tôt ou alors dans un verre un peu plus large.
Peut-être.
Cette année, on est passé sur des verres des suprêmes alors qu'on travaillait avec des INAO. Mais je pense que pour tous les vins, les vignobles qui flirtent un petit peu avec la mer comme ça, il faut les laisser s'exprimer.
Il aurait fallu peut-être le carafer, puisque bon, on est sur un salon et malheureusement, on n'a pas tous les moyens qui nous sont mis à notre disposition pour avoir les meilleures conditions, mais bon, c'est déjà pas mal. On l'a ouvert ça quand on est arrivé, mais c'est vrai que le fait de le carafer, de le laisser s'exprimer, parce qu'il y a des bouquets qui sont refermés encore et qui prennent pas toute leur ampleur, et c'est bien dommage.
En tous les cas, quand je dis ça, c'est pas une façon péjorative de juger le vin, hein, pas du tout. C'est au contraire, je regrette qu'on puisse pas l'amener à de bonnes conditions pour le présenter pour la dégustation.
Tu es minutieux, Guillaume.
Mais ça veut dire aussi que quelquefois, quand on est sur des vins comme ça, il faut pas hésiter à changer de verre ou alors de pratique de service. Donc, monsieur le disait tout à l'heure, on l'aurait carafé, il aurait été bien meilleur. Au niveau température, il est correct.
Oui, voilà.
Mais c'est vrai que là, on a un petit peu cette accroche qui. Ça freine un petit peu, c'est dommage. Voilà.
C'est vrai.
Bon. Après, de toute façon,
à découvrir. Bon.
Il est très agréable. La Syrah est là.
Voilà, c'est ça. La Syrah est là. Ce sont des vins, comme on l'a dit en préambule, qui sont agréables. C'est facile à boire. Avec cette pointe d'acidité qui peut nous permettre de l'envisager dans quelques années. C'est des vins qu'on va qualifier de semi-garde, quoi. Donc, on peut garder ça pendant 2-3 ans. Et là, je pense que ce sera vraiment. Le point culminant de ce produit. Voilà.
Voilà, quand on achète des verres, on n'achète pas le verre à la bouteille, avec une bouteille après une. On achète 4-5 flacons pour arriver à le comprendre, son évolution. Et une fois qu'on a bien saisi ceci, après, on peut se fidéliser sur un domaine, par exemple, parce qu'on connaît les principes de production. Et effectivement, on pourra mieux apprécier les moments où on doit sortir la bouteille. Voilà, c'est ça qui est intéressant. J'en reviens un petit peu au verre. On s'aperçoit que le Languedoc-Roussillon, maintenant, travaille de plus en plus avec des verres assez larges, généreux. Mais c'est normal. Nous, ici, on a un vin qui a un caractère puissant derrière. Et il est puissant sans être un vin épais. J'essaie de prendre des termes que tout le monde va comprendre.
Oui, mais
voilà.
Tu fais
donc,
bien.
Je veux dire, on a besoin absolument de laisser le vin prendre de l'oxygène pour arriver à donner toute sa saveur. Et cet oxygène-là, on va l'obtenir que quand on va lui donner un vase assez large, un contenant large. Voilà. Après, ici, on le voit que c'est un vin jeune, parce que je le regardais, bon, le disque est encore il est bien marqué et tout. Alors, le disque, sans faire de la technique, et je suis à cheval là-dessus, vous avez dû me voir tourner sur mon tabouret, là, aller dans la lumière. C'est la partie où le vin touche l'air. Et ça fait une espèce de lèvre tout autour du verre. Donc cette lèvre-là est un indicateur primordial dans l'appréciation d'un vin quant à son âge et à sa valeur. Le moment le plus intéressant, on va avoir un disque qui va être ultra limpide, particulièrement fin. Voilà, ce sont des choses comme ça que l'on va apprécier. Mais ici, le viticulteur l'a dit, c'est un vin qui est jeune. Donc on ne va pas chercher les références dans ce disque-là, on va le chercher dans la saveur. Et quand je l'ai pris en bouche, effectivement, c'est ce qui m'a un peu gêné, il était fermé.
Ouais, complètement.
Voilà.
Oui, complètement.
Il n'est pas vrai, il n'est pas complètement fermé, mais
pas complètement
il n'est pas optimal dans sa présentation. Voilà. Mais par contre, ça, c'est un vin que je vous recommande. D'ici un an, il devrait être excellent.
Très bien.
Eh bien, n'hésitez pas à venir. Si vous êtes sur quel stand?
Alors, c'est le stand numéro 34.
34, ouais. Ah ben tiens, l'héros, ah ben, ouais, ça tombe bien, on ne peut pas se tromper.
Oui, mais peut-être qu'il avait fait exprès.
Et oui.
C'était un stand qui était vendu deux fois plus cher.
Ouais, c'est pour ça. Le domaine, rappelez-nous pour venir.
C'est
voir.
Le vignoble de Lonca, stand numéro 34. Après, on se situe sur la commune de Cerce, entre Béziers et Agde. Voilà.
D'accord, merci beaucoup.
Merci à vous.
Y a un œnologue qui est présent pendant ce salon, Guy.
Ah, tu voulais parler de Frédéric ?
C'est ça.
Frédéric Ducrot qui nous suit dans nos périples depuis, depuis que le Salon du Vin existe à Mende. Frédéric, c'est devenu quelqu'un à qui on est particulièrement attaché parce qu'il est excellent pédagogue. En plus, avec lui, en fait, on peut se permettre des fois des sautes d'humeur. Il ne nous en veut jamais. Il est toujours disponible. Et c'est surtout qu'en plus, il s'est approché le viticulteur, faire ce trait d'union entre lui et le consommateur. Voilà. On apprécie énormément ses participations sur tous les salons parce qu'à chaque fois, il revient et il renouvelle un petit peu ce côté sympathique. Parce qu'on va vers le vin, pourquoi ? Pour partager de bons moments en famille et de bons moments entre amis. Et cette convivialité, on l'a justement avec des gens qui ne se prennent pas la tête. Oui, il est œnologue, mais de l'autre côté, on s'adresse à lui comme tout le monde parle, avec son collègue, son copain. Voilà, c'est ça qui est sympa.
Voilà, il tiendra l'atelier à Corps Mes Vins, animé également par les comités de jumelage de Vinzidel et de Villarreal. Le concours, c'est aujourd'hui. La proclamation des résultats, c'est à 18h. On les aura demain dans l'émission de 10h30 à 11h30, les vins primés.
Ça dépend combien vous donnez. Hein.
Ben, écoute, on va en discuter autour d'un repas.
Non, mais bien sûr, il y aura une publication ce soir aux environs de 18h, je pense, ou 18h30. Effectivement, en plus, j'aurais pu amener ceci en précision. On a été obligé de revoir notre règlement qui a été déposé à la directe, bien entendu.
Marie nous en a parlé. Voilà,
parce qu'en fait, les règlements évoluent sans cesse. Donc, auparavant, on créait les coups de cœur. Cette année, on ne l'a pas fait. C'était trop compliqué. Qui plus est, nos bénévoles ont une bonne formation sur des rouges. Donc, on va rester dans le domaine que l'on connaît et que l'on apprécie. Et ce concours-là, en fait, on y tient sincèrement parce que ça donne un peu le reflet de la ville de Mende quand les vins ils sont présentés n'importe où ailleurs sur un marché ou autre et qu'on voit l'estampille, le petit macaron Mende, ça nous fait plaisir, voilà.
Voilà, et on le rappelle ce soir, bien sûr, une soirée bar tapas tout public avec une ambiance jazzy avec les Forever. On en a parlé en première partie d'émission avec Marie. Merci beaucoup, Guy. On te retrouve demain, bien sûr, hein, 10h30, 11h30. Merci, Eric. On te retrouve aussi demain.
À demain.
Et merci à Corentin, la technique, et à Julia qui était également présente pour aller nous chercher les viticulteurs. 10h30, 11h30. Demain, on aura les vins primés dans cette émission. Et en attendant, on vous invite, bien sûr, à venir nombreux à l'espace événement Georges Fraîche pour ce 9e salon du vin toute la journée aujourd'hui et également toute la journée de demain. Merci à tous.
Et merci 48FM, merci à Ludovic, puisque c'est Ludovic qui tenait le centre de la conversation.
48FM, en direct du Salon du Vin, à l'espace événement Georges Fraîche.
Apprécier la robe du vin, l'aspect visuel. Une deuxième étape où nous allons nous intéresser au nez du vin. Et finalement, nous allons goûter le vin.
Regarder, sentir, apprendre à déguster, tous les secrets du vin vous seront dévoilés dans cette émission.